Vous écoutez France Inter, il est 13h32. On retrouve Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un peuple menacé, les Touaregs.
Une partie de toi part vers les villes, mais ta chair appartiendra toujours au désert. Chanson Touareg.
D'histoire. Combien sont-ils? On n'en sait rien. Peut-être moins de 2 millions sur un territoire grand comme 4 fois la France. Ignorant les frontières, vivant en dehors du temps, parcourant depuis des siècles une des régions les plus déshéritées de la Terre, les Touaregs essayent encore de résister à la politique des États qui veulent les sédentariser au risque de faire disparaître un des peuples les plus singuliers de l'histoire. Perchés sur leurs méharis avec leurs vêtements bleus, leurs sabres, leurs lances et leurs boucliers en peau d'antilope, les Touaregs ont longtemps fasciné tous ceux qui, en plein cœur du Sahara, ont rencontré un jour ces guerriers et ces pasteurs, venus tout droit du Moyen-Âge.
Il fait nuit depuis longtemps déjà, une nuit chaude, en lune. Nous sommes à Aguelop, notre quatrième étape, au Soudan, dans l'Adrar des Ivoras, au pays Touareg. Quel rite étrange! Barbare, inconnu, écoutez. Les guerriers portent sur le visage un voile, le hitam, aussi sombre que leurs vêtements. Ces farouches nomades ne sont vraiment comparables qu'aux chevaliers du Moyen-Âge avec leurs vices et leurs vertus.
Hélène Clodoawad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et auteur d'un livre sur les Touaregs qui vient de sortir chez Gallimard. Est-ce que les Touaregs d'aujourd'hui ressemblent encore à ceux dont on parlait dans cette vieille archive qui datait de 1942?
Certainement, ils ne ressemblent pas tout à fait à cette image, mais ont-ils ressemblé un jour à cette image? Finalement, on est amené à réfléchir sur la construction de ces clichés sur l'autre, celui qui représente l'être différent de soi, et on s'aperçoit que cette idée d'archaïsme, par exemple, a subsisté au fil des temps, mais à mon avis ne correspond pas vraiment à ce que sont les Touaregs.
Alors cela dit, on en parle, vous le dites, depuis très longtemps, je crois qu'on en parlait déjà au Moyen-Âge. Quelle est l'origine des Touaregs? D'où est-ce qu'ils viennent et depuis quand vivent-ils au Sahara?
Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une civilisation qui est ancrée dans la préhistoire, puisque il y a des témoignages préhistoriques de la présence de proto-berbères. Les Touaregs sont des berbères depuis 7000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a les Libyens sahariens qui ont laissé aussi beaucoup de témoignages. Et puis, naît une société qui est formée évidemment de flux et d'apports très très différents qui viennent aussi bien donc d'une autochtonie saharienne que du Moyen-Orient, de la Méditerranée, de l'espace sud-saharien.
Il y a même des gens qui ont dit, cette chose extraordinaire, qu'ils seraient des descendants des croisés, qui seraient perdus dans le désert.
Oui, parce que toute cette imagination, cette identification aux Touaregs, identification passionnelle, effectivement, a nourri la littérature juste avant la période coloniale, a nourri la littérature française en particulier. Il y a eu une identification. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette image d'archaïsme subsiste aujourd'hui. Alors qu'on sait que c'est pas vrai, oui.
C'est peut-être parce que sur leurs vêtements, sur leur bouclier, il y a une croix, sauf que c'est la croix du Sud, hein, c'est évidemment l'étoile qu'ils voient, mais c'est peut-être pour ça. Alors, ils vivent dans un territoire immense, ils ne connaissaient pas les frontières jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, à quoi correspondent les limites du pays Touareg, Hélène Clodoawad?
Alors, les limites du pays Touareg, si vous voulez, elles correspondent aussi à des négociations politiques, à un rapport rapport de force et un rapport de pouvoir.
Non, mais géographiquement, avec... avant qu'on parle des frontières.
Alors, géographiquement, je suis obligée de revenir aux États actuels. Les Touaregs se répartissent entre 5 États. L'Algérie, la Libye, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, cet espace, effectivement, est immense. Et il se structure de manière différente en fonction des périodes.
Alors, c'est un espace désertique aussi. De quoi peut-on bien vivre depuis des siècles comme ils le font dans le désert? Ce sont à la fois des guerriers, dites-vous, et puis des nomades, des pasteurs.
Oui, alors le désert n'est pas forcément le désert pour les Touaregs. Si vous voulez, ce que les gens de l'extérieur appellent désert ne correspond pas. Pour les Touaregs, il y a une grande partie de leur territoire qui est utilisable, donc ce n'est pas le désert. Ce sont, effectivement, c'est une société qui est centrée sur l'élevage, mais le poumon de l'économie nomade, c'était avant tout le trafic caravanier, les échanges commerciaux lointains.
Le sel, l'indigo, hein, qui donne la couleur, oui, aux vêtements.
Oui, c'est ça. Et vraiment, enfin, une très très grande importance des échanges commerciaux qui ont d'ailleurs varié au cours du temps aussi.
Ils parcourent donc ce désert depuis des siècles sans jamais s'y perdre grâce à la plus vieille boussole du monde, les étoiles, une archivina de 1998.
Si vous êtes avec moi, je peux vous montrer chaque étoile de chaque région, de chaque puits aussi. Cette étoile de l'ouest qui fait face à ta tête, c'était l'étoile qui montre la route de Nouakchott, Tombouctou-Nouakchott, direct. Chaque région, on a une étoile qui l'indique. Il est facile de se perdre aussi dans la ville, mais pas dans le désert quand même. Les jours, c'est tout à fait une histoire différente. On se repère par les différences couleurs du paysage. Il y a d'autres endroits, le sable est jaune. Il y a les endroits où le sable est rouge. Il y a les endroits où le sable est blanche comme du sucre.
Est-ce que ce sont encore les étoiles et le sable, Hélène Claude Awad, qui guident les Touaregs dans le désert? Non, il y a aussi la route maintenant.
Pas trop la route, parce que le sens de l'orientation, effectivement, est absolument remarquable. C'est une compétence qui est utilisée dans les activités les plus modernes qu'il soit. Et cette connaissance s'appuie sur une observation très très précise de tas d'indices comme les traces du vent, de l'eau, des animaux, qui permettent de s'orienter et de retrouver avec une grande sûreté son chemin et son orientation. Donc c'est très remarquable et je trouve que les Touaregs ont développé une connaissance géographique inouïe.
Et grâce aussi à un animal fait pour le désert, oui. qui est le chameau, sans lequel les Touaregs n'existeraient pas.
Il faut pas dire ça, parce que quand il n'y a pas de chameau, les Touaregs existent aussi. Mmh. Je crois que c'est un instrument, effectivement, qui donne une certaine originalité à cette société. Mmh. Mais avec les 4x4, ils s'orientent tout aussi bien. Ils les ont instrumentalisés comme ils l'ont fait avec le chameau.
Alors, autre originalité, Hélène Claude Awad, c'est évidemment l'organisation sociale des Touaregs. Ils vivent en maison, en tribu d'abord, c'est ça? Qui ont été parfois de grandes confédérations.
Oui, tout à fait. Ils comparent leur organisation sociale au fonctionnement du corps humain, si vous voulez, où chaque membre a une fonction particulière, mais est indissociable de la fonction des autres membres. Donc, c'est un corps social assez compliqué, où tout le monde n'a pas forcément la même fonction ni le même rôle. Et la société Touareg, au début du XXe siècle, est organisée en 5 grandes confédérations qui regroupent des tribus, des maisons.
Et puis elle est très hiérarchisée aussi, hein. Il y a la noblesse, un peu comme à l'époque féodale, des nobles, il y a les hommes libres, et puis il y a les esclaves, il y a eu longtemps des esclaves aussi.
Oui, il y a effectivement un principe de hiérarchie qui ordonne cette société, mais il y a aussi un principe d'égalité. À l'intérieur des catégories sociales, vous avez un principe d'égalité, mais je crois qu'on comprend vraiment cette société si on introduit un troisième principe qui est celui du dynamisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas assigné forcément à vie dans une catégorie sociale. Il y a une transformation, l'idée que chaque individu est amené à parcourir, à faire un parcours social, physique, matériel, symbolique.
Alors puis au-dessus de tout, alors c'est frappant en vous lisant Hélène Claude Awad, ben il y a quelque chose qui est tout à fait unique dans le monde musulman. Les femmes, on écoute une jeune Touareg, Tachérif, au micro de Colette Fellous en 1990.
On est bien considéré, on est beaucoup aimé, on est beaucoup protégé. Et les filles dans le désert, donc, à partir de 2 ans, lorsqu'on commence à parler, l'éducation commence, c'est-à-dire d'apprendre à la fille à parler les Touaregs, c'est-à-dire le Tamashek, Dine à l'écrire, Dine à savoir de quelle tribu qu'elle appartient, si c'est noble ou pas. L'éducation commence à partir de là. Les filles sont vraiment beaucoup, beaucoup considérées. C'est eux qui dirigent tout, mais vraiment, dès toute petite, moi, j'avais des responsabilités d'avoir d'héberger 6 ou 7 hommes en disant, bon, demain matin, vous ferez ça. Demain matin, il y en aura un qui va chercher l'eau. Moi, je ferai ça. Et moi, je participe. Hein, je reste pas à la maison. Les filles, Touareg, elles doivent savoir vraiment tout.
C'est vraiment les femmes qui dirigent tout, Hélène Clodo-Awad.
Je ne dirais pas ça. C'est une société à dominante matrilinéaire, mais je crois que ce qui fait son originalité, c'est qu'elle est construite autour du principe féminin, au-delà de la femme.
Les Touaregs, je crois, disent même, font remonter leur, parmi les plus lointains ancêtres des Touaregs, vous dites qu'il y a essentiellement des femmes, ils font remonter leurs origines aux femmes.
Voilà, l'ancêtre fondateur est souvent une femme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des ancêtres fondateurs féminins, parce qu'il y a aussi une partie de la société qui est patrilinéaire. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que la femme est au cœur de la société et elle est considérée comme l'élément civilisé de la société. Et l'homme est assimilé à ce qui n'est pas civilisé. Quand il naît, il appartient à ce monde extérieur et sauvage. Et donc, pour intégrer la société, il va falloir, en somme, un certain nombre de rites pour l'apprivoiser, pour qu'il ne soit pas dangereux et qu'il ne risque pas d'ébranler la société, les maisons. D'où les maisons, le sens du voile. J'appelle ça maison parce que...
Sont propriétaires. Les femmes sont propriétaires de la tente.
Oui, dans la plupart des groupes Touareg, la tente est un bien féminin. Mais ce qui est, j'utilise le terme maison pour dire que c'est en fait une famille. Hein. C'est quelque chose qui dépasse, le couple. Ou... مبقر في دايل انترنا فكو في بدارا نت ولا قولي ولا قولت قرشا ونيرة قشكا بيه ميتي
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les Touaregs.
C'était le groupe Oyiwan, Assod, la version modernisée d'une chanson traditionnelle Touareg, la chanson d'un peuple qui n'a pas changé pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs européens au 19e siècle, la revue texte Stéphanie Duncan.
Regardez passer sur son rapide méhari ce cavalier mystérieux. Son visage est en partie couvert d'un voile noir, masque sombre qui ne laisse voir que 2 yeux perçants et farouches. Ses vêtements sont de la couleur de la nuit. Sa main droite brandit une lance au fer aigu. Au flanc de sa monture résonne un large bouclier carré sur lequel se détache la blanche image de la croix. C'est un Touareg. En ce texte de la fin du 19e siècle est un bel exemple, il me semble, de la fascination qu'exercent les Touaregs sur les Français. En 1859, un jeune explorateur, Henri Duverrier, parcourt le Sahara et il en rapportera une vision très élogieuse des Touaregs. La bravoure des Touaregs est proverbiale, dit-il. Ils ne connaissent ni le mensonge, ni le vol domestique, ni l'abus de confiance. Leur patience, leur fermeté dans la misère ne peuvent être surpassées. car sans ses vertus, comment pourrait-il vivre dans le désert? Alors de tout cela, hein, du statut de la femme aussi, cet explorateur tire la conclusion que la civilisation des Touaregs est comparable à la nôtre. Les Touaregs nous ressemblent, dit-il, et même qu'ils sont supérieurs à la sauvagerie présumée des Arabes. Alors un autre Français qui a vécu en Algérie dans la seconde moitié du 19e, Émile Masqueret, est émerveillé lui aussi par la liberté des Touaregs. Nomades, dit-il, ils ont réalisé l'idéal de la vie légère et rapide qui convient à leur ciel. Mais comme du Verrier, hein, et apparemment c'est une manie à l'époque, on compare, Masqueret les compare aux Français, encore une fois, et voit en eux des parents, mais des parents arriérés. Ce sont bien des barbares, dit-il, mais des barbares de notre race, avec tous les instincts, toutes les passions et toute l'intelligence de nos arrière-grands-pères. Leurs mœurs nomades sont celles des Gaulois qui ont pris Rome. À la fin du XIXe siècle, alors que commencent à multiplier les révoltes touareg contre la présence militaire française, les textes vont parfois devenir un peu plus méchants. Les touaregs, tout à coup, deviennent le symbole de la cruauté. Un savant l'affirme, par exemple, le plus lâche guet-apens, le meurtre d'une femme, l'empoisonnement ne leur coûte pas. Ou encore, pour justifier l'annexion du Sahara par la France, un certain Victor Largeau, en 1879, demande, il affirme, qu'on les astreigne à la vie sédentaire, et pour leur ôter toute velléité de fuir, il suffira d'occuper le hogar dont on pourra faire pour eux un lieu de déportation. Ils seront bientôt bien obligés de se plier à nos exigences pour échapper à la mort.
Hélène Clodo-Aouad, dans ces textes d'Européens au XIXe siècle, on sent qu'il y a à la fois de la fascination, de l'admiration, mais aussi du mépris et même de la peur.
De la peur, oui. Cette image, effectivement, a plusieurs temps. Avant l'entreprise coloniale proprement dite, les Touaregs fascinent. Ils représentent vraiment un peuple exotique. Il y a une admiration évidente qui s'établit entre les observateurs et les Touaregs. Et puis après, dans le contexte colonial, on va chercher des interlocuteurs, des relais. Et alors se construit l'image des Touaregs et plus largement des Berbères en opposition aux Arabes censés être fourbes et cruels et qui représentent l'ennemi. Donc c'est cette espèce de recherche d'un relais à la politique coloniale qui fait qu'on trouve les Touaregs aimables et puis ensuite, évidemment, les Touaregs se soulèvent et à ce moment-là, l'image se déconstruit et on passe à celle du Touareg cruel, vindicatif, sans foi ni loi.
Autrement dit, l'idée que s'en fait l'explorateur n'est pas la même que celle du militaire ou du conquérant ou du colonial plus tard. Les premiers contacts avec les Touaregs sont donc des explorateurs. Vous évoquez, je crois, Mungo Park en 1795, le premier à avoir exploré la région des Touaregs, les boucles du Niger, etc.
Oui, tout à fait. Je crois que le premier explorateur qui a donné suffisamment de détails, qui est entré en contact avec la population Touareg, c'est quand même Duverrier. Mmh. Et tous les écrits postérieurs s'inspirent énormément de la vision de Duverrier, qu'on accusera d'ailleurs au moment de la mission Flatters en 1881 d'avoir menti, d'avoir développé un romantisme tout à fait faux au sujet de cette population.
Il ne faut pas oublier non plus ceux qui ont découvert Tombouctou, une des capitales des Touaregs. Avant Caillé, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un Anglais, Lang, qui a été assassiné, qui a
tout
été tué.
Fait, oui.
Et puis René Caillé en 1828. Et puis alors après, les explorateurs, évidemment, comme toujours, arrivent les conquérants. Que représente l'intérêt du Sahara, du pays des Touaregs, pour les puissances coloniales à la fin du XIXe siècle?
Alors c'est avant tout, on trouve ça dans les archives, de relier les possessions françaises, si vous voulez. Le Sahara doit être un espace qui permet de relier ses possessions et non plus un barrage où l'on se heurte à des populations hostiles. Donc c'est le but essentiel.
Alors il y a eu évidemment un massacre, vous l'avez mentionné, en 1881, le massacre de la mission Flatters, mais évidemment la France envoie à nouveau des colonnes pour essayer de conquérir le Sahara, qui est finalement soumis en 1904, mais pas pour longtemps. On écoute un extrait de Force à Gannes.
Les guerriers, les hommes bleus, les bastards, les corvées, les amandes, aux seigneurs du désert. Tantôt, ils ont foutu le camp. Et maintenant, c'est la merde.
Bien à l'abri derrière cette soi-disant frontière. Sultan Omar attend la première occasion pour nous attaquer. Et nous sommes pris en tenaille et éjectés de toute la région.
Alors ?
Mon lieutenant, ils disent tous, il y a beaucoup de guerriers qui vont rejoindre Sultan Omar. Dizoulad Douidi, Dizoulad Lille, et avant une tribu du Hank. Pierre, il en est passé 30.
Qu'est-ce qu'ils foutent, Mathieu? Où ils sont?
Partout, mon lieutenant. Partout. Là-bas. Chou!
Feu! Feu à volonté!
Madeleine Clodoawad, vous avez reconnu la voix de Philippe Noiret et de Gérard Depardieu dans cet extrait de Force à Gagne. Bon, c'est un roman, cela dit, c'est la réalité. Ça n'a pas été facile, la pacification, comme on l'appelait. Il y a eu notamment un grand soulèvement d'un homme qui a beaucoup compté, qui compte encore aujourd'hui dans l'histoire des Touaregs, c'est Khaosen, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Khaosen est une figure politique importante parce que face à l'armée coloniale, finalement, qui était dotée d'armes infiniment plus puissantes que celles des Touaregs qui se servaient d'armes blanches, il y avait deux solutions. Il y a eu la solution des chefs qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays et que leur rôle était d'affronter cette puissance sur place en continuant à protéger leurs dépendants. Et puis, il y a des gens comme Khaosen qui ont dit il faut absolument essayer de se jeter dans cette guerre moderne avec les outils dont nous avons besoin et nous allons reconstituer des forces dans l'exil. Et c'est un peu le parcours de Khaosen qui mettra 17 ans à atteindre son but, c'est-à-dire à se trouver à la tête d'une armée moderne, capable d'affronter l'armée coloniale.
C'est lui, il faut le rappeler, qui a fait tuer le père de Foucault, qui renseignait pas mal l'armée française. Hein. Il servait aussi à ça, cet ancien militaire qui était le père de Foucault, donc mort en 1916 à Tamanrasset. Et puis alors viennent donc 40 ans au fond de soumission. Je sais pas si le statut des Touaregs a beaucoup changé. Ce qui a changé pour eux de manière considérable, y compris après la décolonisation en 1960, l'indépendance, ce sont les frontières. Voilà que ce pays sans frontières, leur territoire est divisé en plusieurs États, vous l'avez rappelé.
Tout à fait. Ça a beaucoup quand même changé sur le plan de l'organisation politique et sociale. Il ne faut pas oublier qu'après la guerre coloniale, l'économie touareg est complètement écrasée, anéantie. Les groupes qui ont lutté activement sont détruits, y compris physiquement. Pour vous donner un exemple, la Confédération de Khaosen, les Ikaskazen, comptait 900 tentes avant la révolte et 60 à la fin. Donc il y a eu quand même des massacres, il y a eu une extermination des gens qui ont mené cette lutte. Les tribus ont été déplacées, il y a eu un démantèlement total de l'organisation politique, donc le pays est très atteint.
Un démantèlement qui continue, puisque les Touaregs sont aujourd'hui divisés entre l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, et le Niger et le Mali, et séparés par des frontières de plus en plus infranchissables. On écoute encore cette jeune Touareg, Tachérif, en 1990.
Aujourd'hui, si on va en Algérie, on va nous dire « Non, vous ne traverserez pas, vous n'avez pas de papier, on nous demande d'où on vient, vous êtes dit Mali, vous retournez ». Et qu'à l'époque, il n'y avait pas ces problèmes-là. Les caravanes, ils faisaient des va-et-vient, ils amenaient ce qu'ils voulaient, ils trafiquaient ce qu'ils voulaient d'un côté ou de l'autre. Il n'y avait pas à dire « Retournez, vous n'êtes pas d'ici » et tout. De chaque côté, c'était chez nous. Je dirais même ça devient presque la misère des Touaregs. Et qu'à l'époque, c'est les échanges sur les animaux, c'est les caravanes, c'était magnifique. Aujourd'hui, non. Alors ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire on diminue, on devient une petite minorité qui d'ici quelques années, il n'y aura plus des Touaregs, des vrais Touaregs, il n'y en aura plus.
Est-ce qu'on peut le croire, là, ce que disait cette jeune Touareg, disparition de ce peuple?
C'est-à-dire, je pense qu'elle exprime le problème majeur de cette société aujourd'hui dans la modernité, c'est la ghettoisation. C'est-à-dire, on a fait d'une société qui était largement au centre des échanges, non seulement économiques, mais aussi sociaux, culturels, on en a fait une société isolée, et dans chacun de ces états, les Touaregs sont minoritaires. Donc c'est un problème énorme et la recomposition de la société Touareg dans ces conditions est très difficile.
À quoi correspond, Hélène Clodoawad, la volonté qu'ont les États de sédentariser ces populations et comment le font-ils? Je crois que l'école compte pour beaucoup dans cette sédentarisation.
Pas tellement dans la mesure où il y a peu de Touareg scolarisés, ça représente une petite minorité. Mais il est évident que si l'on applique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on voit tout de suite le problème. Les Touaregs sont répartis entre 5 États, donc il n'est pas question de laisser germer cette revendication. Et le problème le plus fondamental aussi, c'est qu'ils se trouvent sur les territoires pétrolifères les plus riches de l'Algérie et de la Libye. Donc vous voyez tout de suite le problème.
Cela dit, il ne se laisse pas faire. Il y a eu beaucoup de révoltes, notamment une très importante qui s'est produite, je crois, au Niger et au Mali en 1990.
Oui, tout à fait. Il y a eu un projet de lutte armée qui est né dans les années 75, qui a commencé à se concrétiser dans les années 80 avec l'insertion dans les camps d'entraînement libyens, avec l'idée que la Libye pourrait aider, puis finalement l'assurance que ça ne serait pas possible, puisque la revendication des Touaregs est finalement interétatique. Elle remet en question les frontières actuelles. Donc elle ne peut être tolérée par aucun État, si vous voulez. Et donc, en 90, il y a eu un soulèvement armé. Mais c'est paradoxalement à partir de 91, lors des premiers accords signés, que les massacres de civils Touareg par l'armée ont été les plus terribles.
Merci Hélène Clodo-Awad. On se quitte peut-être avec quelques mots d'un Touareg qui lui a choisi la sédentarisation et puis une très belle chanson d'Abdallah Ag Oumbadougou. Une partie de toi part vers les villes, mais ta chair appartiendra toujours au désert.
Nous cherchons là où il y a l'école maintenant pour aller là-bas, pour amener nos enfants là-bas. Nous cherchons aussi à ce que nos enfants connaissent la vie sédentaire. Pour nous, la vie nomade est impossible aujourd'hui. D'être un oiseau, chaque jour voler, aller à un autre endroit, chaque jour à un autre endroit, ça, ce n'est pas le développement.
Je rappelle le titre du livre de mon invité, Hélène Clodo-Awad, Touareg, apprivoiser le désert, un livre publié dans l'excellente collection Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre un extrait de Force à Gamme d'Alain Corneau distribué en cassette chez CAMP. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs.